Bonjour à tous, l'Esprit public ce dimanche est à Blois au rendez-vous de l'histoire, émission en direct et en public. Merci d'être avec nous ce matin si nombreux. Ensemble, nous allons donc décrypter, comme nous le faisons chaque semaine, les temps forts de ces derniers jours, en matière politique et géopolitique, en compagnie de nos visiteurs du dimanche, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, les journalistes et essayistes Gérard Courtois et Brice Couturier, et le grand Manitou, grand organisateur de ces rencontres de Blois, Jean-Noël Jeannonet, nous fait l'amitié de sa présence ce matin. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour, Émilie.
Bienvenue dans l'Esprit public, au sommaire de ce dimanche 13 octobre. Les médias et la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, la douche écossaise. Terrorisme, après les attentats, la parole des présidents pour réparer la nation et le peuple kurde, bien sûr. Nouvel épisode cette semaine d'une histoire tragique. C'est l'histoire d'une erreur médiatique qui devient elle-même un fait d'actualité. Les unes des journaux ce dimanche ont quelque chose d'assez ubuesque, titrant donc sur un événement qui ne s'est pas produit. Dupont de Ligonnès, à qui la faute, titre par exemple le journal du dimanche, nous proposant le récit de ces 16 heures où l'on a cru que le fugitif avait été arrêté en Écosse. Comment la police et les médias se sont précipités sur une fausse piste, peut-on lire encore. Le journal revenant ensuite sur le mystère de cet homme introuvable depuis 2011, après avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants. Histoire d'une méprise, titre aussi Le Parisien dimanche, sans que l'on sache très bien si ces journaux ont choisi ce genre de une parce que l'énormité de l'erreur nécessitait un mea culpa et des explications, ou parce qu'il était trop difficile, voire douloureux, de renoncer à ce scoop médiatico-policier tellement excitant. En attendant ce dimanche, dans un certain nombre de rédactions, on ressentait comme une ambiance de douche écossaise. Gérard Courtois, ce qui s'est passé ce week-end, cette espèce de fièvre du samedi soir autour de la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un cauchemar de patron de rédaction, non?
Oui, bien sûr. Mais revenons d'abord sur les, au fond, la maïotique de toute cette affaire. On est devant un fait divers qui est un des faits divers les plus remarquables, les plus mémorables des 50 dernières années. On en a un comme ça tous les 30 ans. L'affaire Dominici dans les années 50, l'affaire Grégory dans les années 80, et aujourd'hui, l'affaire de Ligonnès. Et à chaque fois, on a les mêmes ressorts, les mêmes ingrédients. Un mystère irrésolu, comme une sorte de polar sans fin. Un mystère doublé dans l'affaire de Ligonnès, de la disparition, depuis 8 ans, du principal acteur, présumé en tout cas, du meurtre de cette famille. Du coup, une machine à fabriquer du fantasme, les interprétations, les récits, les élucubrations les plus rocambolesques ou les certitudes les plus aléatoires. Vous avez sûrement en mémoire ce fameux article de Marguerite Duras sur l'affaire Grégory dans Libération, sublime, forcément sublime, qui tenait pour acquise, comme évidente, la culpabilité de la mère de Grégory. Là-dessus, évidemment, se greffe un feuilleton dont, il faut bien le dire, tous les médias, et ça n'est pas nouveau, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est depuis des décennies, tous les médias raffolent de ce genre de feuilleton. Et enfin, et j'ajoute, sans faire de la psychanalyse de comptoir, qu'à chaque fois, on a la mise en scène d'une famille, avec ses secrets, ses haines. Et disons que c'est un espace de projection assez commode, et où les spectateurs, lecteurs, auditeurs de tout ce qui est raconté sur ces affaires peut se projeter très facilement. Tout cela fabrique quoi? Un cocktail d'excitation, de fantasmes, de voyeurisme, d'une certaine manière, qui fait deux victimes supplémentaires. On le voit bien, on l'a vu il y a deux jours avec l'affaire de Ligonnès. Les deux victimes supplémentaires, c'est, disons, la police au sens large, enquêteurs, juges, etc. Et dans toutes ces affaires, les enquêtes ont été, on le sait, que ce soit Dominici, Grégory ou même Ligonnès, les enquêtes ont été extrêmement, on va dire, erratiques, ont duré pendant des années avec des rebondissements, des changements de juges, des changements de procureurs, des changements de responsables policiers ou gendarmesques chargés de conduire les enquêtes. Et évidemment, l'autre victime, c'est les médias. Mais la partie est liée. Dans l'affaire de Ligonnès, les médias, et c'est ce qu'ils ont plaidé depuis deux jours, disent « Mais nous, on a fait notre boulot, on a vérifié auprès de nos sources policières ou judiciaires, qui nous ont confirmé vendredi à 9h ou 9h moins le quart ou 9h15, que c'était bien, effectivement, selon la police écossaise, de Ligonnès qui avait été arrêté. » Et alors, ce qui est... Vous aviez raison, Émilie, de dire l'excitation, d'être l'auteur le premier auteur du scoop qui va donner la clé de l'énigme. Et il est évident que chez les uns comme chez les autres, chez les policiers comme chez les journalistes, qui étaient les maîtres du mystère depuis 8 ans, il y a eu l'envie irrépressible d'être ceux qui vont donner la clé du mystère les premiers. Et c'est comme ça qu'on fonce tête baissée dans une magistrale sortie de route.
Brice Couturier.
Oui, il y a quand même un élément nouveau par rapport aux affaires que tu disais à l'instant. C'est qu'il y a la concurrence que les réseaux sociaux font aux médias traditionnels. J'observe que de nombreux confrères sont à l'affût de la dernière news qui va tomber. Et cette concurrence que nous subissons de la part des réseaux sociaux qui donnent les informations avant nous est absolument problématique. Parce que cette volonté de donner l'information avant tout le monde, elle a lieu dans un contexte de concurrence exacerbée entre un trop grand nombre de chaînes d'information en continu télévisuelle. Sachant qu'aux États-Unis, il n'y a que 3 chaînes d'information en continu. Nous, nous en avons 4, voire 5 en réalité. C'est beaucoup trop. Donc, elles se livrent entre elles à une concurrence acharnée pour un marché qui finalement est assez petit. Et elles jouent un rôle absolument pernicieux parce qu'elles sont en concurrence avec les radios. Regardez que France Culture est la seule radio probablement à ne pas avoir donné cette fausse information, à ne pas avoir cédé à cet emballement médiatique parce que nous, nous avons un certain recul. Merci.
Et la directrice est dans la salle. C'est
simplement parce que nous ne cherchons pas à réagir à l'événement avec promptitude et exactitude et à être sur le coup, comme disent les confrères. Non, notre vocation, c'est d'éclairer l'actualité, pas d'essayer de concurrencer les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et là, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème dramatique qu'il faudra régler un jour parce que on peut pas continuer à vivre dans cet univers où des puissances étrangères et des réseaux extrémistes cherchent à provoquer des émotions populaires intenses en fabriquant de fausses nouvelles ou en modifiant le sens de certaines d'entre elles et en faisant circuler sur les réseaux sociaux des fausses informations que les chaînes de télé en info sont obligées de reprendre parce qu'elles si elles ne le font pas immédiatement, on les prend en défaut de ne pas être sur le coup. Non, je pense que la vocation de l'information aujourd'hui, c'est de ne pas être sur l'information, mais de l'éclairer.
Avant de... rapidement, Gérard Courtois.
Dans l'affaire Grégory, comme dans l'affaire Dominici, je suis navré, mais les médias traditionnels se sont livrés une concurrence frénétique, ont inventé toutes les hypothèses possibles et imaginables sans avoir besoin des réseaux sociaux.
Oui, donc, ça. Au fond, pour vous, Gérard Courtois, et pour vous, peut-être, je ne sais pas, Jean-Noël Jeannonet, cette nouvelle affaire, elle est à classer dans le livre déjà bien épais des histoires d'emballement médiatique ?
Oui, comme toujours, je ne vous étonnerai pas en vous disant que pour ma part, je vais dire, n'exagérez pas l'inédit, c'est toujours le rôle de l'historien de service. Alors c'est vrai, ce que vient de dire Brice, qu'il y a une certaine accélération. Mais en fait, les choses allaient aussi vite lorsqu'on vendait sur les grands boulevards, dans l'entre-deux-guerres, des éditions successives du même journal. Et j'ai, en voyant cette histoire, immanquablement pensé à un précédent, c'est celui de l'arrivée des deux aviateurs Nogesser et Colli en mai 1927, dont on avait dit qu'ils avaient réussi à traverser l'Atlantique. Et les journaux ont fait une concurrence. Ils ont répondu à ce vieux proverbe « Dites-moi ce qui me fait plaisir et je vous croirai ». Et ensuite, ils ont demandé à un journaliste de raconter la scène de l'arrivée. Et je ne résiste pas au plaisir, si vous me le permettez, de vous lire juste 3 lignes.
Je vous permets tout, vous êtes ici chez vous.
Je n'en abuserai pas. La Presse, c'est le journal qui s'appelle La Presse, un magnifique journal qui avait été fondé par Gérardin en 1836. Et on peut lire ceci. Vous savez, c'était l'oiseau blanc qui s'est abîmé dans l'océan quelques jours avant que Lindbergh traverse dans l'Atlantique dans un autre sens. Voilà ce que l'on pouvait lire. Nogesser et Colli restèrent un moment immobiles, comme insensibles aux acclamations qui montaient. Puis ils se levèrent et ils s'embrassèrent.
Nungesser n'a fait aucune déclaration sur son voyage. Il a simplement dit qu'il avait réussi et qu'il avait hâte de se reposer. Fin de citation.
Merci pour cette lecture, Aurélie Filippetti.
Oui, bien sûr, c'est l'économie en fait de ces chaînes d'information continue et de la presse aujourd'hui qui est aussi en cause, parce qu'ils ont besoin de vendre des espaces publicitaires et du temps de cerveau disponible. Et évidemment, ce genre de faits divers est un formidable carburant pour ces chaînes d'information. Mais néanmoins, effectivement, il faut se rappeler que dans l'affaire Grégory, les conséquences de cet emballement médiatique ont été beaucoup plus grave, parce que là, finalement, en 24 heures ou en 16 heures, on a, grâce au test ADN, on a vu que ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès, tandis qu'il faut se rappeler qu'à l'époque de l'affaire Grégory, Christine Villemain a été enfermée, a été emprisonnée injustement, il faut bien le rappeler, alors qu'elle était enceinte pour accuser et soupçonner du meurtre de son propre fils.
On a aussi rappelé ces derniers jours l'affaire Baudis, qui pourrait être comparée, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, mais en termes d'emballement médiatique.
En fait, cet emballement, et en l'occurrence dans l'affaire Grégory, le fait que des médias, qui étaient des médias traditionnels, pour le coup, tout à fait traditionnels, les médias ont pris parti clairement et d'une manière totalement anti-déontologique.
Cette histoire, elle en dit beaucoup aussi, Jean-Noël Jeannonet, sur notre soif, notre appétit, notre goût d'histoire romanesque, parce qu'il est infiniment romanesque, ce Dupont de Ligonnès.
Gérard Courtois l'a très bien dit, c'est très, très évident. Un autre point m'intéresse par comparaison, ce sont les conséquences que sur les organes de presse peuvent avoir d'aussi gigantesques erreurs. Alors, j'observe que la presse a disparu en quelques semaines, elle a perdu entièrement la considération de ses lecteurs. En revanche, j'avais été très frappé il y a quelque temps, lorsque vous vous rappelez peut-être Paris Match et Stern avaient publié des carnets de Hitler inédits. On avait vu que c'était des faux carnets. Je crois que ça n'a eu absolument aucune conséquence sur la vente. Notamment, je me rappelle que Paris Match avait dit certes, ce ne sont pas de vrais carnets, mais il est très intéressant de réfléchir à la raison pour laquelle on a pu croire que c'en était.
Rapidement, Aurélie Filippetti.
C'est vraiment la phrase de Guy Debord. Dans un monde réellement inversé, le faux devient un moment du vrai. C'est-à-dire qu'au fond, peu importe que tout ça soit complètement faux, ça sera oublié demain, ça n'aura effectivement, sans doute, malheureusement, aucune conséquence.
Mais en guise de conclusion aussi, peut-être parce que cette affaire Gérard Courtois ressemble à l'histoire de Jean-Claude Roman au livre d'Emmanuel Carrère, d'une certaine manière, Dupont de Ligonnès et son frère.
Oui, mais juste un mot pour ce qui est des médias. On peut parfaitement, moi, ça ne me choque pas que les médias relayent immédiatement un événement nouveau dans une affaire qui passionne les gens. Une partie du public et des lecteurs, mais de manière évidente depuis des années. Donc ça c'est normal. Ce qui est troublant, c'est de se, si je puis dire, et sans aucune référence à aucune chaîne en particulier, se mettre en édition spéciale pendant des heures, à partir de 9h du soir vendredi jusqu'à 9h du soir le samedi. Alors qu'on savait parfaitement que, ça n'était pas Ligonnès qui avait été arrêté, et d'éclipser derrière cette affaire absolument toute autre actualité. Là, il y a un problème de hiérarchie qui est juste ahurissant. Ouais.
Et dernière question sur le fait que ce matin encore, finalement, c'est la une des journaux. Je n'ai pas regardé les chaînes d'information en continu ce matin. Je ne sais pas si elles sont toujours en édition spéciale, vous Couturier.
Moi, ma seule conclusion, c'est regardez bien vos empreintes digitales, parce que si elles ressemblent un tant soit peu à celles de Xavier de Ligonnès, arrêtez de prendre l'avion pour l'Écosse.
Très bonne conclusion pour cette première partie. Allez, on va reprendre le fil de l'actualité de cette semaine qui s'achève après l'attentat à la préfecture de police de Paris. Le discours d'Emmanuel Macron et au-delà cette question, quels mots choisissent les présidents pour réparer la nation ? On verra qu'il est encore question de médias.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Nous nous sommes bizarrement habitués à cet enchaînement des faits, l'alerte sur le smartphone annonçant une tuerie, l'attente de savoir si le mot « acte terroriste » va être prononcé ou s'il lui sera préféré celui d'acte fou. On en vient d'ailleurs bizarrement à espérer la folie plutôt que le terrorisme pour éviter d'avoir à se confronter de nouveau à l'irruption de cet ennemi de l'intérieur venant sciemment déséquilibrer la paix civile. Une fois l'acte qualifié, on a pris l'habitude d'attendre les précisions du procureur de la République, âge, identité, parcours du tueur. commence alors le récit médiatique post-attentat, l'emballement des chaînes d'information en continu qui bascule en édition spéciale dont nous parlions à l'instant. Puis vient le moment du récit politique, lorsque les ministres compétents, ou même le chef de l'État, si la gravité de l'acte commis l'exige, prennent à leur tour la parole. Face à la rupture sécuritaire provoquée par l'acte terroriste, le président doit alors réaffirmer l'existence et l'action de l'État. Réparer la nation après l'attentat, réaffirmer l'autorité de l'État et sa capacité à agir. Voilà bien l'exercice auquel s'est livré cette semaine Emmanuel Macron, rendant hommage aux quatre policiers tués lors de l'attaque de la préfecture de police de Paris. Attaque symboliquement traumatisante parce que soulignant la vulnérabilité de l'institution même chargée de nous protéger dans un état de droit. Les mots des présidents, tous ces discours ont-ils évolué au fil des attentats, de l'école juive de Toulouse à Charlie et au Bataclan, jusqu'à la préfecture de police ce mois-ci? Ces paroles présidentielles, Sarkozy, Hollande, Macron, réussissent-elles toujours à produire de l'unité, celle qui permet de continuer de faire nation? Et que nous révèlent-ils enfin ces mots présidentiels de ceux qui les prononcent?
L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences.
Voilà, Emmanuel Macron qui a donc exhorté les Français mardi sous la pluie dans la cour de la préfecture de police à une action collective contre l'hydre islamiste et qui appelle aussi les Français à une société de vigilance. Ce sont des mots sur lesquels il est intéressant de s'attarder un peu, Jean-Noël Jeannonet, notamment avec vous, et notamment le choix de l'image de cette hydre qui rappelle bien sûr l'hydre de Lerne, ce reptile à neuf têtes vivant dans un marécage. Pourquoi choisir cette image? Est-ce qu'elle n'est pas une sorte d'aveu d'impuissance?
Non, puisque Hercule a triomphé de l'hydre de Lerne.
Macron est-il Hercule?
Je ne pense pas que ce soit le signe d'une impuissance. Ce qui me frappe, c'est que ce n'est peut-être pas le plus difficile ce moment-là, juste après le drame. Il est évident qu'un chef d'État est amené à trouver les mots qui marqueront cette empathie. En réalité, si vous regardez en arrière, vous apercevez que les cas contraires sont extrêmement rares. Peut-être Copernic, en 1980... lorsque le président Giscard d'Estaing, qui était à la chasse, n'est pas revenu après cet attentat effroyable contre la synagogue et s'est contenté d'un communiqué. C'est aussi le moment, il faut faire attention dans l'émotion, aux petites phrases toujours. Vous rappelez ce qu'avait dit Raymond Barre, le premier ministre. Cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites, et déjà le mot israélite est assez daté, qui se rendait à la synagogue, qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversait la rue Copernic. Mais je vous permettrai, encore une fois, c'est un historien qui vous parle, de remonter plus loin en arrière. La période qui me rappelle le plus celle-ci, c'est l'époque évidemment des attentats anarchistes dans les années 1890, et j'ai repris les déclarations des dirigeants. Je trouve que les mots sont assez proches. En réalité, regardez ce que disait par exemple le président Loubet, président du Conseil. Les pouvoirs publics ne négligeront aucun des moyens qu'ils tiennent de la loi pour la défense commune. Et le président du Sénat, M. Chalmel-Lacour, prédécesseur de M. Larcher, par conséquent, je le lui dédie spécialement, cette citation, « Il ne s'agit plus seulement de rendre impossible, ou du moins plus difficile désormais, un système de crimes qui a déjà trop souvent épouvanté et d'en assurer la répression. Il s'agit d'extirper une secte abominable, en guerre ouverte avec la société, qui s'est placée elle-même en dehors de toutes les lois du monde entier. » Ce qui m'intéresse le plus personnellement dans ces déclarations immédiates, c'est le propos qui doit, à mon sens, s'ajouter à cette expression d'une douleur collective. C'est-à-dire attention, attention, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. La démocratie est grande lorsqu'elle réussit à ne pas utiliser contre le crime des armes qui sont éventuellement contraires aux principes même qui fondent la raison d'être de la démocratie. Et quand vous reprenez la loi de 1881 et les lois 10 ans plus tard, la loi 80 sur la presse, et les lois qui 10 ans plus tard ont réagi aux attentats anarchistes, on voit bien ce péril.
scélérate.
En 81, on avait beaucoup débattu. Charles Floquet, un grand homme, celui qui avait dit « Vive la Pologne, monsieur au tsar », qui s'était battu en duel, mais je ne m'égare pas. Votre œil s'inquiète.
Je vous, pas du tout. Mon œil est parfaitement serein, mais vous ramène peut-être dans le temps présent.
Je finis juste. Eh bien, il s'était battu pour dire « Attendez, c'est le dernier point. Attention, il ne faut pas incriminer l'intention. Il ne faut pas incriminer ceux qui peuvent éventuellement apparaître après coup comme ayant appelé au crime. Parce qu'à ce moment-là, la liberté de la presse. » Et demi, je dédie ce propos à François Sureau.
Bel hommage, merci beaucoup. Je vous ramène dans le temps présent pour savoir si de cette intervention présidentielle de 2019, vous retenez en effet l'expression d'hydre islamiste, ou si cet appel à la société de vigilance dit quelque chose aussi de l'évolution des mots et de la menace, et de nous confronter à cette menace.
Oui, d'abord, il faut bien voir que c'est évidemment toujours un moment important, le discours du chef de l'État, après un attentat qui est traumatisant pour l'ensemble de la communauté nationale. Donc, il y a le besoin de rassembler l'ensemble des Français, de les rassurer, et aussi de faire communauté. Alors, évidemment, Emmanuel Macron, on a eu malheureusement plusieurs séquences d'attentats. Et donc, il ne peut pas tenir un discours qui consisterait à dire, on va faire une énième loi sur le renseignement, par exemple, puisqu'il y en a eu en moyenne une tous les deux ans, depuis à peu près 15 ans, que la loi sur le renseignement après les attentats de 2015 avait quand même donné des pouvoirs extrêmement accrus, justement, de surveillance et de contrôle, et qu'on est là face à une limite de ce genre de mécanisme d'État pour surveiller et tenter d'empêcher ce genre d'acte terroriste. Alors évidemment, le président de la République rappelle qu'il y a eu 50 ou 60 attentats qui ont été empêchés grâce aux services de renseignement. Néanmoins, on est face à une menace qui peut arriver n'importe quand, n'importe où, et comme certains l'ont dit, presque des attentats avec des moyens extrêmement faibles. Certains ont parlé d'attentats low cost, enfin avec un couteau acheté dans un supermarché. Donc face à cela, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit société de vigilance. Alors cette expression peut faire peur. Il précise bien immédiatement, attention, ce n'est pas la société de suspicion. Enfin, néanmoins, évidemment, l'expression de société vigilance, elle est très orwellienne. C'est la société panoptique, le panopticon de Jeremy Bentham, vous savez, ce philosophe anglais qui avait pensé la prison comme étant l'endroit où en fait le détenu pouvait être vu à tout instant. Et c'est ça en fait l'idée un peu derrière ça, c'est une société où chacun regarderait chacun. Et évidemment, c'est tout à fait terrifiant. Ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est qu'évidemment, ça vient percuter, malheureusement, et malgré toutes les précautions qu'il a prises, encore une fois, mais ça vient percuter un discours qu'il avait eu précédemment, là, depuis la rentrée, là, sur l'immigration. Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est que chez certains de nos concitoyens, il y a finalement une assimilation entre l'appel du président à ce qu'on surveille tous les signes de radicalisation islamiste possible, et puis, de l'autre côté, c'est ce racisme galopant quand même dans une partie de la société française vis-à-vis de nos compatriotes musulmans ou même simplement considérés comme des musulmans même s'ils ne sont pas pratiquants. Donc c'est cette conjonction de ces deux moments qui peut être périlleuse. Et je pense que Emmanuel Macron en a bien conscience. C'est sans doute pour ça qu'il a pris toutes ces précautions en disant attention, ce n'est pas la société de suspicion et attention au poison qui se diffuse parmi les enfants de France. Donc il ne met pas en dehors de la communauté nationale une partie de celle-ci, heureusement. Donc il a pris beaucoup de précautions, mais j'espère que ces précautions seront bien entendues par ceux à qui elles s'adressent.
Et le débat sur le mot islamisme, il est déjà là, prégnant partout, notamment dans la presse cette semaine, avec cet affrontement notamment qui a pu avoir lieu entre d'un côté le Figaro, de l'autre Libération, avec cet édito d'Alexis Brézet dans le Figaro sur le dénislamisme, hein, une partie de la droite parlant toujours d'un aveuglement sentiment général envers le danger islamiste et donc précisément d'un défaut de vigilance. Alors Laurent Geoffroy dans Libération a rappelé qu'on ne pouvait pas parler de déni selon lui puisque les gouvernements successifs de droite et de gauche ont renforcé la législation antiterroriste, ont accru les crédits, ont augmenté les effectifs, qu'il y a eu des interventions en Syrie, en Irak, au Mali précisément. Mais ce sera le débat des prochaines semaines, de toute façon, des prochains mois.
Mais voyez, pour faire le lien avec le sujet précédent sur l'hystérie médiatique, quand il y a certaines personnalités, et je n'ai pas du tout envie de les nommer, qui déversent à longueur de journée, à longueur d'antenne, des discours de haine, des discours racistes, certains ayant été condamnés pour incitation à la haine raciale, et qu'on leur laisse libre antenne, ça c'est un scandale. Parce que ce sont eux qui, au fond, sont les propagateurs de ce poison qui mine la société.
C'était notre sujet de la semaine précédente. Brice Couturier puis Gérard Courtois.
Bon, on ne peut pas complètement rabattre le discours d'Emmanuel Macron sur ce qui vient de se passer, sur le discours de ses prédécesseurs. J'ai essayé de le faire dans l'esprit que vous aviez souhaité, mais on ne peut pas pour une raison simple, c'est que nous sommes à une nouvelle phase de la lutte antiterroriste. Cette fois-ci, on n'a pas frappé des journalistes parce qu'ils sont satiriques, qui sont dans un journal qui se moque des croyants, de toutes les croyances. On n'a pas frappé des soldats musulmans parce qu'ils ont choisi de servir la France. On n'a pas choisi des enfants juifs parce qu'ils sont juifs et qu'ils vont à l'école. On n'a pas choisi de frapper des fans de rock parce qu'ils vont au Bataclan. Non, on a frappé au cœur même de la préfecture de police, c'est-à-dire que au cœur même d'un des dispositifs qui est chargé de nous protéger. Donc, comme l'a dit Gilles Kepel dans Le Figaro, cet acte a, je cite, une portée symbolique exceptionnelle parce que c'est le symbole de l'ordre public en France et de la lutte anti-djihadiste qui a été ébranlée. Bon, bref, il s'agissait d'un dysfonctionnement majeur de l'État, des services publics qui sont chargés d'établir la confiance. Or, la même semaine, on apprend par un sondage OpinionWay que, je cite, trois Français sur quatre sont tentés par un vote anti-système parce qu'ils n'ont pas confiance dans nos institutions. 30% sont prêts à voter pour le RN, 20% pour la France insoumise et 20% pour Dupont-Aignan, plus 41% qui sont prêts à s'abstenir. Donc il était vraiment nécessaire dans une pareille situation de rétablir la confiance. Il me semble que Macron a été à la hauteur de la tâche, d'une part parce qu'il a reconnu honnêtement qu'il y avait eu un dysfonctionnement. Le terroriste était habilité à consulter des fichiers qui sont sensibles parce qu'ils sont précisément consacrés à la lutte antiterroriste. Il y a eu donc une faille grave et on n'a pas su interpréter à temps les fameux signaux faibles qui désignent quelqu'un qui risque de passer à l'acte d'un moment à l'autre. En cœur de la citadelle, encore une fois. Il a su nommer l'origine de ce mal sans atermoiement, sans dissimulation. Il a parlé de l'hydre islamiste. Je sais bien qu'il y a une partie de la gauche dont le logiciel n'est toujours pas à jour et qui en veut toujours à Manuel Valls d'avoir parlé de guerre contre le terrorisme. Mais voilà, maintenant c'est sur la table, c'est partout. Il faudra bien s'y résigner. Par ailleurs, il a fait appel à l'Union nationale, à l'unité nationale. C'est la moindre des choses. Il faut absolument obtenir cette unité nationale. Ensuite, il a fait appel à une société de vigilance, c'est-à-dire simplement à notre esprit civique. Il y a d'autres pays dans le monde qui sont frappés par des attentats de manière à peu près quotidienne. J'ai personnellement été un voyage d'études en Israël sur la question de l'antiterrorisme. Et tous les gens que j'ai rencontrés de ce point de vue-là, qui sont des spécialistes du sujet, notaient qu'il y a moins d'attentats terroristes en Israël, alors que la situation est autrement plus compliquée que celle que nous avons ici. Mais en Israël, quand quelqu'un se balade avec un lourd sac à dos en plein été où il fait chaud et qu'il a un grand manteau sur le dos, je vous assure qu'il ne passe pas inaperçu parce qu'il y a un sens civique, parce que tout le monde, juifs comme arabes, israéliens, savent qu'il y a un risque et le désignent à la police. Je n'ai aucune envie de rentrer dans une société orwellienne en France, c'est vraiment pas le but, mais il faut comprendre que les pouvoirs publics à eux seuls ne sont pas capables de nous protéger contre la menace terroriste. C'est chacun d'entre nous qui doit voir qu'une valise est abandonnée sur un quai de gare et prévenir immédiatement les autorités et pas se dire tant pis pour ceux qui vont passer derrière moi. Non, chacun doit prendre en charge la sécurité collective. C'est ça que nous appelle Emmanuel Macron.
Gérard Courtois, cette société de vigilance s'est basculée dans un système orwellien, comme disait à l'instant Aurélie Filippetti, potentiellement, en tout cas avec ce risque-là, ou en tout cas c'est juste à l'inverse de rappeler en effet que l'État ne peut pas tout.
En tout cas, ce qui est, une fois qu'on a dit société de vigilance, on dit quoi ? On pose des questions, Brice Couturier vient de les énoncer. Que faut-il surveiller ? Qui faut-il surveiller ? Comment surveiller ?
Et comment dénoncer ?
Oui, Mais qui faut-il surveiller et comment ça revient à signaler, mot qui officiel, à une hiérarchie, qu'elle soit la hiérarchie policière, la hiérarchie de l'éducation nationale ou autre, de l'hôpital, etc., à signaler des comportements qui apparaîtraient comme problématiques, inquiétants, etc. Mais c'est là, à mon avis, c'est deux points qu'on n'a pas soulignés encore dans la difficulté. Parce que Macron s'est plié à l'exercice, j'allais dire, rituel de ce genre de dans ce genre de circonstances que ses prédécesseurs, effectivement, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Au moment de François Hollande, Emmanuel Macron était ministre. Il était sinon aux premières loges, du moins aux deuxièmes. Donc il a pu parfaitement observer la mécanique et la rhétorique employée à ce moment-là. Mais sur deux points, il est beaucoup plus en difficulté que ses prédécesseurs. Le premier, c'est sur la détermination affichée à agir. Aurélie Filippetti l'a dit, on a épuisé à peu près toutes les possibilités législatives et même au-delà, puisque... N'oublions pas l'épisode de la déchéance de la nationalité qui était supposé être une réponse après le 13 novembre et la tuerie du Bataclan et des cafés parisiens. Donc il n'a plus ce type d'outils possibles à brandir dans la lutte contre l'hydre islamique. Donc il invoque une société de vigilance, mais elle pose plus de questions, ou en tout cas à ce stade, au moins autant de questions qu'elle n'ambitionne d'en résoudre. Le deuxième point, et Brice Couturier l'a évoqué, mais sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de au fond, la vocation de ce genre de discours de rassurer le pays, lui dire, au fond, d'incarner l'autorité et de rassurer le pays à travers l'incarnation de l'autorité de l'État que le président représente. Comment rassurer quand c'est le cœur même de l'autorité qui est touché? À partir du moment où la faiblesse de l'État à travers sa force publique, ses services de renseignement, la préfecture de Paris, etc., à partir du moment où cette faiblesse de l'État est avérée, il devient effectivement extrêmement difficile et très fragile de réaffirmer une puissance vigoureuse de l'État contre cette menace. Donc là, par rapport à ses prédécesseurs, je pense que Emmanuel Macron a une double difficulté. Il en a, en deux mots, deux autres. La première, c'est que, et on l'a vu ces dernières semaines, dans des domaines très différents, la défiance à l'égard de la parole publique est plus forte que jamais. Donc, rétablir la confiance dans un tel climat, je ne vais pas citer des chiffres d'enquêtes, de sondages, etc., mais ils sont multiples, dans un tel climat est encore plus compliqué. Et la deuxième difficulté, ou l'autre difficulté, me semble-t-il, c'est le contexte international. On va en parler dans un instant. Mais évidemment, à partir du moment où, au moment même où il s'exprime, le président américain, au fond, donne le feu vert à l'offensive turque contre les Kurdes, et donc réactive puissamment la menace Daesh, ce qui paraissait réglé, ou ce que beaucoup voulaient croire réglé, l'éradication de l'État islamique, ou la défaite de l'État islamique, la défaite militaire, redevient un problème majeur, ou une menace majeure, et ça rend d'autant plus difficile, me semble-t-il, la vocation d'un tel discours de la part du président de la République.
Eh bien, merci pour cette impeccable transition qui me fait gagner un temps considérable. Il est largement l'heure de passer à la partie internationale de notre émission. Vous l'avez dit, une autre tragédie, celle des Kurdes.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Le président Erdogan a annoncé mercredi le début d'une nouvelle opération militaire baptisée Comble du cynisme, printemps de la paix contre les Kurdes de Syrie. Des frappes aériennes ont visé plusieurs villes frontalières, des morts sont déjà à déplorer. Dans une certaine indifférence, car qui sait vraiment de quoi on parle? Que veut-on dire lorsqu'on dit les Kurdes, sachant que le territoire qu'ils occupent recouvre pas moins de 4 pays, Turquie, Irak, Iran et donc Syrie, soit autant de réalités kurdes différentes. Dans chacune de ces régions, les peuples kurdes ont tenté de s'organiser politiquement, malgré les réticences des États au sein desquels ils vivent. Les Kurdes, on le sait, ont été le fer de lance de la guerre contre l'État islamique, notamment en reprenant Kobané, mais aussi Raqqa. Les Kurdes attaqués cette semaine ont le projet de créer un Kurdistan autonome en Syrie, raison pour laquelle ils avaient opéré la jonction des trois cantons d'Afrin, de Kobané et de Djezireh avec le nom de Système fédéral démocratique de Syrie du Nord ou Rojava. Sauf que le 18 mars 2018 déjà, l'enclave d'Afrin était passée aux mains des Turcs. Le territoire kurde dont nous parlons cette semaine est une bande de territoire syrien longue de 120 km et profonde d'une trentaine de kilomètres. La Turquie dit vouloir en déloger les Kurdes pour établir une zone tampon pouvant accueillir une partie des plus de 3 millions de Syriens actuellement réfugiés en Turquie. Les États-Unis de Trump, en ordonnant le retrait des forces spéciales américaines, ont livré de fait les Kurdes à la Turquie. Ils laissent aussi par effet ricochet le champ libre à la Russie, donc à son allié syrien, et remettent du chaos dans une région déjà chaotique, rendant possible le réveil de certaines cellules de Daesh. Les 5 membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné en vain, puisque comme d'habitude, Chine et Russie n'ont rien dit et bloqué toute possibilité de sanctionner. Les Kurdes, une tragédie sans fin ou l'histoire qui radote, résumée crûment mais efficacement par l'écrivain cette semaine Patrice Franceschi, engagé auprès d'eux depuis 7 ans. On a demandé aux Kurdes de Syrie de nous débarrasser de notre ennemi commun qui était Daesh, et une fois qu'ils ont rempli le job, on les jette à la poubelle.
La population ici appelle la communauté internationale à faire preuve d'une volonté plus ferme. Jusqu'à présent, personne ne nous soutient vraiment. Nous avons perdu 11 000 martyrs, hommes ou femmes, pour que le monde vive en paix, débarrassé de la menace terroriste de Daesh. Pour cette raison, les gens, moi y compris, sont très en colère contre les grandes puissances. Elles nous abandonnent après tous nos sacrifices pour le monde. Ce que les gens du Nord et du Nord-Est syrien ont donné, personne ne leur rend aujourd'hui. Et il semble clair que les États-Unis ont donné un feu vert à Erdogan pour qu'il mène son opération et que le pouvoir turc ait l'intention d'aller jusqu'au bout de cette guerre sauvage et brutale. Mais nous, nous sommes toujours là.
Voilà, l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Sebri Mustafa, c'est le maire adjoint d'un village de ce Kurdistan syrien encerclé par les forces turques, des propos recueillis par les équipes de France Info. Gérard Courtois, ce qui apparaît terriblement clairement dans cette actualité de la semaine, c'est à la fois l'atonie occidentale et la redoutable stratégie avec coup de billard à trois bandes de l'axe Turquie-Russie-Syrie-Iran.
Oui, mais... la faiblesse ou l'impuissance occidentale, et notamment européenne, on va sûrement y revenir. Moi, ce qui me paraît le plus accablant dans ce nouvel épisode, à la fois du drame kurde et du chaos syrien, c'est qu'il était annoncé, proclamé et écrit. De manière parfaitement explicite, depuis des mois, du côté turc, l'objectif territorial d'Erdogan a été affiché, de manière très claire, depuis le début de l'intervention turque dans le nord de la Syrie, c'est une zone tampon pour protéger la frontière turque, alors sur 30 km de profondeur, 150 ou davantage de longueur, etc. Et c'était en discussion avec les Américains depuis des mois. Bien. L'objectif politique d'Erdogan, il est conforme à l'objectif politique de tous les pouvoirs turcs depuis un siècle. Museler la singularité turque, la singularité kurde. En Turquie et couper tout lien ou tenter de couper tout lien entre les Kurdes de Turquie et les Kurdes soit de Syrie, soit d'Irak pour éviter qu'ils servent de base arrière à ce que non seulement la Turquie mais aussi les Occidentaux qualifie de mouvement terroriste. Je parle du PKK, les Kurdes de Turquie. Tout ça était explicite. C'est évidemment d'une brutalité et d'un cynisme total. Et on sait bien que dans le jeu qui s'est passé pendant les dernières semaines, les Américains ont réussi à convaincre leurs alliés kurdes de désarmer, de se retirer de cette zone tampon, d'une partie de cette zone tampon, en disant on va organiser des patrouilles communes turco-américaines, donc ne vous inquiétez pas. Donc ils ont au fond incité les Kurdes à s'affaiblir dans cette zone et faciliter d'autant l'offensive turque. Du côté américain, on peut s'indigner une nouvelle fois du cynisme, de la désinvolture, du caractère ubuesque, etc., ou erratique de Donald Trump. Mais je veux dire, comme souvent, il fait ce qu'il a annoncé, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Depuis un an, presque, décembre 2018, on va retirer les boys de Syrie. On va se retirer de ces guerres ridicules et, ajoute-t-il parfois, tribales, dans lesquelles nous n'avons rien à faire et dans lesquelles l'Amérique est empêtrée depuis 18 ans, depuis l'affaire afghane. Donc, voilà. Et entre, de la même manière que Erdogan, sur la scène intérieure, veut refaire l'unité du pays après des déboires sérieux, politiques et économiques, de la même manière, entre le sort des Kurdes et le sort des GIs, ou le sort des boys, et sa propre réélection espérée dans un an, le choix de Trump est très vite fait. Donc tout ça a été extraordinairement prévisible. C'est ça qui me... Et tout le monde semble pris de court, y compris aux États-Unis, y compris dans l'administration américaine, où on fait semblant, en tout cas, semble-t-il, de tomber des nues. Voilà. Bon, après, on reviendra sûrement sur l'impuissance européenne. Elle est avérée. Elle n'a pas beaucoup la volonté, et en tout cas pas les moyens, d'intervenir. Je ne citerai qu'un seul exemple. C'est 2013. François Hollande est déterminé à intervenir en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad par des frappes après le franchissement, comme on disait à l'époque, de la ligne rouge, l'usage d'armes chimiques contre les populations civiles. Et au dernier moment, Obama renonce à cette intervention. Et cette intervention ne peut pas avoir lieu. Les forces françaises, évidemment, mais européennes au sens large, ne peuvent intervenir dans cette zone qu'en appui des Américains. Si les Américains disent « on s'en lave les mains », bien, les Européens sont, si je puis dire, sans moyens.
Alors, bien sûr, je sais, Jean-Noël Jeannonet, que sur ce dossier kurde, la concordance des temps est assez riche et féconde.
Je suis un kurdologue assez récent. Mais ça
non, vous y aviez consacré une émission en 2014, chérie.
C'est bien renseigné, ma chère consoeur. J'ai envie de prendre un peu, comme toujours, de distance en rappelant que ce peuple de 35 millions d'habitants est le seul peuple apatride, complètement apatride du monde, en étant divisé, comme vous l'avez dit. Et que cela n'a pas toujours été forcément inscrit dans les astres. 1919. Le grand moment où on en revient à la fidélité au printemps des peuples, à l'idée, avec le traité de Versailles et les suivants, qu'on doit permettre à des ethnies ou à des peuples qui le souhaitent de se retrouver ensemble. Ça a été décidé, comme en Europe centrale, pour les Kurdes. On a, au traité de Sèvres, décidé qu'il y aurait un Kurdistan. Seulement, ça n'a duré que 11 mois, parce que déjà, la Turquie, ayant pris le meilleur sur la Grèce, a bouleversé l'ensemble. C'est une donnée qui me frappe. L'autre donnée de comparative, c'est la facilité avec laquelle les Américains, mais d'autres aussi, ont mû sur des terrains des peuples, des combattants, les Peshmerga en l'occurrence, celui qui se tient debout devant la mort, Peshmerga. Et puis ensuite, on les abandonne. On pourrait citer les Sud-Vietnamiens, je ne sais pas de savoir quelle cause était la bonne, mais on pourrait citer aussi, dans notre cas, les Harkis. Et cela me paraît devoir et pouvoir être rappelé, d'autant plus que quand on laisse des peuples dans cet état de déréliction, alors on ne sait jamais quelles conséquences cela peut avoir et quel type d'alliance ils peuvent rechercher, y compris perverse, y compris à notre détriment. J'ai relevé dans
C'est-à-dire syrienne, par exemple ou...
Oui, dans ma kurdologie récente, j'ai relevé ce proverbe qui m'a frappé et qui est un proverbe kurde. Un homme qui se noie se rattache à n'importe quoi sur la rive, ne fût-ce qu'un serpent.
Pas mal. Citation tout à fait adéquate, en effet. Et puis, il y a cette conférence de presse complètement incroyable de Donald Trump cette semaine, expliquant que les États-Unis n'iront plus aider les Kurdes parce qu'après tout, ils ne nous ont pas aidés, je le cite, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Donald Trump devrait venir ici à Blois rencontrer des historiens sérieux, car il y a des historiens qui ont par ailleurs expliqué que ce que déclarait Donald Trump était faux, puisque les Kurdes auraient aidé à briser le siège à la suite du coup d'État pro-nazi de 1941 en Irak, et que les Kurdes, à l'époque, représentaient 25 25% des troupes irakiennes pro-alliées.
Donc nous n'avons plus qu'un bref instant de croire que Trump a une énorme culture historique.
Mais oui, quelle déception ce matin à 11h44, Brice Couturier.
Alors, Trump effectivement a annoncé sa décision en décembre dernier. À l'époque, il y avait encore 2000 combattants américains qui encadraient 60 000 combattants des forces démocratiques syriennes. Je précise que les forces démocratiques syriennes sont composées en effet de Kurdes, les Kurdes de l'YPG, qui n'a rien à voir avec le KPP turc, comme la propagande turque essaie de nous le faire croire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui contrôlaient entre un tiers et un quart du territoire syrien. C'est des gens qui en avaient effectivement exclu et chassé Daesh, le fameux État islamique. Je rappelle que Daesh, c'était 40 000 personnes venues du monde entier, en particulier d'Europe, venir s'engager dans des réseaux djihadistes. Contrairement à ce que dit Trump dans son discours de l'État de l'Union de février dernier, ce n'était pas une de ces guerres sans fin que nous menons au Moyen-Orient, je cite Trump. Daesh était liquidé en tant qu'État islamique, mais il y avait, on le sait, des dizaines de milliers de djihadistes qui s'étaient repliés et dispersés et qui demeurent extrêmement dangereux. Mais pour les USA, évidemment, c'est évidemment pas dangereux pour les États-Unis, ils sont très loin, mais c'est très dangereux pour le Moyen-Orient. Je vais essayer d'expliquer en peu de mots pourquoi c'est extrêmement dangereux et pourquoi cette poudrière va nous éclater à la figure. Les Américains sont loin, ils sont isolationnistes aujourd'hui, tant mieux pour eux. Mais nous avons à notre porte une poudrière épouvantable. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'article récemment publié dans Foreign Affairs par l'envoyé spécial d'Obama en Syrie, qui s'appelait Brett McGurk et qui a démissionné évidemment en décembre quand il a entendu son président des États-Unis dire qu'on n'avait plus 2000 soldats mais qu'on va les retirer. Il dit la chose suivante, McGurk, il dit « Les USA maintenaient des troupes sur place dans trois buts. 1. Empêcher la résurrection de l'État islamiste, évidemment. 2. Contrer les ambitions de la Turquie et de l'Iran, qui se croient chez eux en Iran. 3. Conserver au profit des puissances occidentales une carte face aux ambitions de Poutine, auquel Al-Assad, n'oublions pas, doit d'être maintenu à Damas, malgré le bain de sang épouvantable qu'il a commis contre sa propre population. Trump a liquidé tout ça. Or, ce qui nous attend maintenant, je vais essayer de passer à la suite, ce qui nous attend maintenant, c'est que Erdogan a promis à sa population, parce qu'il vient de perdre les élections municipales, qu'il allait renvoyer chez eux 3 600 000 Syriens qu'il a accueillis parce que la Turquie se présente en protectrice des sunnites du monde entier, que ces 3 600 000 personnes coûtent trop cher à la Turquie. Il va donc procéder à de l'ingénierie démographique dans le nord-est de la Syrie en expulsant les Kurdes et en y faisant venir les 3 600 000 Syriens qu'il avait chez lui, qui se débrouillent après. Hein, ça sera sans doute les Occidentaux qui vont essayer de reconstruire leur maison détruite. Mais voilà, on est face à quelqu'un qui est soi-disant membre de l'OTAN, qui se comporte en effet comme un ennemi de notre alliance atlantique. On est face à un président des États-Unis qui est totalement irresponsable et qui a manifestement perdu la raison. Et on est, nous, Européens, totalement impuissants face au risque de résurrection de l'État islamique, parce que c'était ces combattants du FDS qui les avaient chassés. Ces combattants du FDS contrôlaient plusieurs milliers de prisonniers de Daesh qui sont en train d'ores et déjà de partir dans la nature. Et on a face, et de quoi sommes-nous capables? Et on va suspendre nos livraisons d'armes à la Turquie. Waouh, Erdogan tremble.
Vous dites les Occidentaux devront venir reconstruire, Aurélie Filippetti, mais les Occidentaux ne sont plus dans cette région du monde. Ce sont les Russes qui occuperont sans doute la place laissée vacante.
Oui, ben les Russes, déjà, ils sont... On peut dire que maintenant, les Russes sont la puissance dominante, ultra-dominante en Syrie. Et ce retrait américain, cet abandon, cette trahison américaine ne va faire que renforcer la Russie en Syrie. Et c'est d'ailleurs pourquoi Vladimir Poutine voit tout ça d'un très bon œil. Alors, évidemment, Erdogan poursuit des objectifs très clairs, comme l'a dit Brice Couturier, de politique intérieure. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur l'Union européenne. Parce que au fond, alors... Voilà, nous on dit, la France dit, on n'exportera pas d'armes vers la Turquie pour ne pas que ces armes servent contre les Kurdes. Évidemment, c'est totalement hypocrite. Et au fond, l'Union européenne s'est mise dans les pattes d'Erdogan avec ce qu'il faut bien qualifier d'accord de la honte en mars 2016 sur les migrants. Cet accord, je le rappelle, hein, disait quoi ? Disait, l'Union européenne va donner 6 milliards d'euros à la Turquie, 6 milliards d'euros, hein, deux fois, pour que la Turquie récupère sur son sol tous les migrants qui seront passés par son territoire. pour aller dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on renvoie à la Turquie les migrants qui veulent venir dans l'Union européenne. En échange de quoi ? On donne donc de l'argent et on devait faciliter l'obtention de visa pour les Turcs dans l'espace Schengen. Il y avait évidemment une petite clause qui disait, bon, on acceptera quand même un certain nombre de réfugiés syriens dans une limite bien précise, c'était 72 000, mais en fait, pour un réfugié syrien accepté dans l'Union européenne, il faudra qu'on en renvoie un en Turquie. Donc cet accord est absolument évidemment moralement inacceptable, et en plus on voit qu'il a des conséquences extrêmement graves aujourd'hui en matière géopolitique, parce que Erdogan fait quoi là en ce moment avec l'Union européenne ? Du chantage, tout simplement. Il dit attention, si vous ne nous laissez pas finalement prendre ces territoires et écraser les Kurdes, eh bien nous allons ouvrir les vannes et vous renvoyer les migrants au sein de l'Union européenne. Donc en fait, on est en train de payer aujourd'hui notre incurie, notre absence totale de courage face à la question des migrations aujourd'hui dans l'Union européenne.
Les migrants et l'autre menace qui est brandie bien sûr, qui est l'existence de cellules dormantes de Daesh et de responsables djihadistes dont on le sait qui sont sur ces territoires aujourd'hui, Gérard Courtois.
C'est ce que je voulais rajouter à ce que vient de dire Aurélie Filippetti. Il y a les migrants et il y a, du fait de l'offensive turque, le risque que les quelques dizaines de milliers de combattants djihadistes, dont quelques centaines de Français d'origine, qui sont détenus aujourd'hui par les Kurdes, soient livrés au chaos dans lequel va se trouver cette zone. Mais je voudrais rajouter un point à ce que disait Aurélie sur l'accord de 2016. C'est de l'argent, certes, mais aussi l'engagement. Et engagement dont les Européens, je veux dire, savaient évidemment qu'il était, sinon factice, du moins très aléatoire, de reprendre à plus haut niveau les discussions politiques avec la Turquie sur ses relations avec l'Europe. On peut pas. Enfin, je veux dire, Erdogan a tous les torts du monde. Les Européens ne sont pas blanc-bleu dans cette affaire.
Erdogan, en effet, j'ai.
Je voudrais rajouter deux choses. Quand je disais que c'est une poudrière, voilà pourquoi. J'ai oublié d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est une poudrière parce que voilà, trois vieux États impériaux, l'Iran, la Russie et la Turquie, vont donc décider ensemble du destin d'une grande nation arabe. Dans le monde arabe, ça passe comme une provocation, comme une véritable gifle. En Égypte, ça va être ressenti de manière épouvantable. Deuxième raison pour laquelle c'est une poudrière, c'est que l'Iran a avancé ses pions, ses lanceurs de missiles à proximité de deux alliés essentiels des États-Unis que sont Israël et la Jordanie, et que, croyez-moi, ni les Israéliens ni les Jordaniens ne le toléreront longtemps. Tant que les Américains étaient sur place, il y avait un moyen de tenir l'Iran à distance, et ça a été un jeu très bien joué entre Israël et la Russie, qui s'entendent très bien, pour neutraliser les rampes de lancement iraniennes de missiles que les Iraniens ont essayé d'installer à proximité de la frontière israélienne. Les Russes les en ont dissuadés et les Israéliens les ont bombardés. Mais maintenant que les Américains s'en vont, la poudrière est démente, parce que vous avez effectivement la Jordanie et Israël qui se trouvent à porter des canons et des missiles iraniens.
Ce que vous expliquez aussi tous, d'une certaine manière, c'est à quel point Erdogan est le maître du jeu ou du double jeu, au fond, dans cette histoire. Jean-Noël Jeannonet, comment est-ce que vous regardez finalement la responsabilité historique de cet homme fort de la Turquie aujourd'hui, maître du double jeu, puisqu'il est à la fois, il faut le rappeler, membre de l'OTAN, tout en ayant acheté, on le sait récemment, des armes à la Russie de Vladimir Poutine. Il lutte officiellement contre Daesh, mais il a vu passer sur son territoire, et on le sait aussi, des milliers de djihadistes en route vers la Syrie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Turquie, aujourd'hui, on enseigne le concept de bon djihad dans les écoles publiques.
On n'a pas besoin de développer des réflexions sur le caractère de ce régime, tellement contraire à tout ce à quoi nous croyons. En écoutant les honorables préopinants, comme on disait au XIXe siècle, je me disais que ça posait la question en particulier de l'Europe. Plusieurs d'entre vous, vous avez dit que les Européens, l'Europe, etc., ça ramène toujours à la capacité que ces institutions nous offrent le moyen de parler d'une seule voix dans certains moments décisifs. Si on n'est pas tout à fait pessimiste, on peut penser que Trump et ses folies ou ses absurdités que Brice vient d'évoquer pourrait constituer pour l'Europe un ressort pour s'unir, le vieux rêve de s'unir. On pourrait presque dire pardon, on pourrait presque dire le rôle que Staline a joué dans les années 50, en effrayant. Ce rapprochement peut surprendre, mais ça peut jouer. Et puis, d'autre part, ça pose la grande question de l'ingérence d'une politique étrangère dans un monde très compliqué. Il y a des cas où il faut le faire. Il y a eu dans les années 1870 en Angleterre un grand débat passionnant entre Disraeli et Gladstone pour savoir s'il fallait intervenir en Bulgarie où les Turcs faisaient avec les Bachibouzouks, c'est pas le capitaine Haddock, avec les Bachibouzouks des exactions épouvantables. Il y avait vraiment deux écoles qui disaient non, le réalisme nous en empêche, l'intérêt public d'Israéli. Gladstone disait nous perdons notre âme et notre raison d'être différents et donc de défendre universellement nos valeurs si nous n'intervenons pas. Je pose des interrogations plus que des affirmations. Mais après tout, c'est notre rôle.
Vous soulignez les uns et les autres cette impuissance européenne, alors même qu'on entend la contestation, qu'on entend les cris, qu'on entend notamment ces intellectuels qui se mobilisent avec, par exemple, cette tribune du philosophe Bernard-Henri Lévy, non à l'abandon des Kurdes syriens face à Erdogan, co-signée par des gens comme Bernard Kouchner, comme Raphaël Glucksmann, ou encore par le président de l'Institut kurde de Paris, Kendall Nezan, qui demande à l'Europe de réagir à cette opération militaire de la Turquie contre les Kurdes, mais est-elle seulement techniquement possible, Aurélie Filippetti, Gérard Courtois?
Mais, enfin, pour moi, évidemment, les Kurdes ont fait, ce sont eux qui ont lutté contre Daesh. Et ce sont eux qui ont repris à Daesh les villes, on l'a dit, de Kobané, Raqqa, etc. Donc c'est ça qui est aujourd'hui, finalement, la menace qui pèse sur nous tous, hein, évidemment, c'est que Daesh, qui était totalement, enfin, considérablement affaibli, renaissent de ses cendres au bénéfice de cet abandon américain.
Et donc, Gérard Courtois, sur la possibilité technique ou pas, faisabilité technique de cette intervention européenne.
Mais prenons juste les deux.
Rapidement.
François Hollande n'est pas le plus mauvais observateur de cette scène. Il est intervenu dans une interview cette semaine et il a dit au fond, il y a deux solutions. Ou bien exclure la Turquie de l'OTAN. Ou bien faire revenir les GIs en force d'interposition. La deuxième hypothèse me paraît totalement exclue par le président américain. Et la première hypothèse est légalement, en tout cas n'est pas prévue par les traités de l'OTAN. Donc on ne sait pas, indépendamment de toute volonté, comment on pourrait faire pour sortir la Turquie de l'OTAN.
Très brièvement, des conseils de lecture. Je voudrais recommander ce petit livre que j'ai acheté dans la bibliothèque éphémère de Blois, Kurdistan, poussière et vent, de Sophie Mousset, dans cette très jolie collection qui s'appelle L'âme des peuples, Brice Couturier.
Moi, j'aurais recommandé un film, Sœur d'armes de Caroline Fourest, qui est précisément consacré au combat des Kurdes et aux femmes kurdes, parce qu'elles font terriblement peur à Daesh, parce que ce sont des femmes et qu'ils ont terriblement peur de combattre des femmes. Ensuite, Barbarossa, le grand livre de Jean Lopez et Lacha Okhtmezouri, que j'ai commencé cette nuit et qui m'empêchait de dormir.
Alors, dans ce monde de brutes, encre sympathique de Modiano, c'est extraordinaire.
Allez, très 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 rapidement, car
il faut lire Orhan Pamuk, voilà.
Évidemment, Jean-Majan Nenner, rapidement.
Le magnifique atlas historique mondial de Christian Gratteloup, depuis Duby dans les années 70, on n'avait pas eu Édition des Arènes, une œuvre aussi précieuse.
Merci infiniment à tous les quatre. Merci à vous d'être venus ce matin assister à cet enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à toutes les équipes qui ont rendu possible cette émission en direct des Rendez-vous de l'Histoire à Blois, Fabien Gosset, Marcos Darras, Mathieu Leroy, Jean-François Georges, Franck Malabry et Francesca Fossati. Je recommande bien sûr l'excellente pièce de théâtre de Jean-Noël Jeannonet au Petit Montparnasse, Christophe Barbier et Emmanuel Dechartre, pour ce dialogue entre Léon Blum et Georges Mandel. Il faut y aller, évidemment.
Merci Émilie.
Je vous en prie, on est très 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 en retard. Tout de suite, je laisse la parole à Caroline Brouet pour les bonnes choses. Et nous, on se retrouve dimanche prochain, 11h. Passez une excellente semaine à l'écoute de France Culture.